France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les États-Unis réclament l'arrêt immédiat de l'offensive en Libye menée par le maréchal Haftar sur Tripoli. La capitale libyenne est tenue par les forces du gouvernement d'Union nationale et depuis la fin de la semaine dernière, au moins 21 personnes ont été tuées dans les combats. L'appel de l'ONU pour mettre en place une trêve n'a pas été entendu. L'appel des États-Unis non plus, puisqu'hier encore, de violents combats opposaient les belligérants. Le maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays, veut étendre son emprise dans l'Ouest, sur fond de conflits internes, notamment autour du pétrole. Cette semaine sera-t-elle vraiment décisive pour le Royaume-Uni? C'est normalement ce vendredi que prend fin le report accordé par les 27 à Theresa May pour finaliser le Brexit. La première ministre britannique, elle, veut repousser une nouvelle fois la date butoir au 30 juin prochain. Une réunion extraordinaire du Conseil européen est prévue mercredi, c'est-à-dire dans deux jours. D'ici là, par anticipation, de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur automobile, vont fermer leur site de production outre-Manche pour éviter une rupture des chaînes d'approvisionnement. C'est un projet européen qui n'avait finalement pas abouti. En France, les députés vont, eux, examiner ce matin le projet de loi de taxation des GAFA, de l'acronyme Google, Amazon, Facebook, Apple. Cette taxe est très critiquée par Washington qui la juge discriminatoire. Portée par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, elle devrait rapporter 400 millions d'euros aux caisses de l'État français cette année, puis 450 millions d'euros en 2020. Le gouvernement présente tout à l'heure sa première synthèse du grand débat national. 2 millions de contributions condensées en un résumé. Et ce sera présenté par Édouard Philippe, le Premier ministre, aux côtés de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Wargon. Les mesures concrètes, elles, doivent être dévoilées à la mi-avril, a priori, par le président Emmanuel Macron. Et puis, notons également ce matin cette date pour se souvenir du génocide rwandais. Emmanuel Macron souhaite instaurer une journée de commémoration le 7 avril. Il y a 25 ans, ce massacre avait fait entre 800 000 et 1 million de morts en 100 jours. Hier, les autorités rwandaises ont entamé une semaine d'hommage solennel.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 émissions et d'un dialogue de clôture en public avec le philosophe Patrick Manillier, l'historienne Bénédicte Savoie, l'écrivain Laurent Godet et le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Venez nombreux samedi 13 avril dès 10h dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr, entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
En ce lundi 8 avril, la littérature est à l'honneur dans le réveil culturel de Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ictus. Ictus est un mot d'origine latine qui signifie crise. Ictus, c'est le titre du dernier roman de Bayon, mon invité du jour, édité par Fayard. L'ex-rock critique du quotidien Libération est donc avec nous. Et à première vue, il a l'air en forme, comme un joyeux retraité rock'n'roll qui a échappé à toutes les épreuves fatales. Non, alors vraiment, Bayon va bien, merci. C'est son double littéraire qui nous inquiète. Dans Ictus, il n'arrive plus à reconnaître la dizaine de livres qu'il a pourtant écrits. Comme si ses propres livres se dérobaient à lui, se retournaient contre lui. Étrange, hein ?
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Alors ça commence par des vacances, hein, des vacances entre amis, dans un presbytère, quelque part en Bretagne, tout y est paisible, dans ce cadre idyllique parfait pour se remémorer les bons souvenirs de jeunesse. Les années Libé, par exemple, quand Libération était encore un journal de référence. Mais on ne répétera jamais assez qu'il faut se méfier des enfants et de leurs questions soi-disant innocentes. Bonjour Bayon.
Bonjour, Toufik.
C'est donc un gamin de 6 ans qui, avec une question toute simple, est à l'origine de ce dernier livre, qui ne l'est pas tant que ça. La question, hein, pas le dernier livre, elle n'est pas si simple que ça, puisqu'il vous a fallu écrire tout un livre, Ictus donc, édité par Fayard, pour tenter de répondre au mum. C'était quoi la question ?
La question c'était, c'est toi qui as écrit ces livres. Il était venu, c'est une question assez imagée, parce qu'il portait, dans mon souvenir, plus ou moins altéré, car il est question d'altération de la mémoire, il portait ses livres entre ses bras, en couronne, comme ça, où voilà, il y en avait tout un tas de... C'était essentiellement des livres jaunes, des livres grassés. Et donc la question c'était, est-ce que c'est toi qui as écrit ces livres ? Et la réponse, malheureusement, n'a pas du tout été, oui bien sûr, comme elle aurait dû l'être.
Pourquoi ?
Parce que tout s'est désagrégé à ce moment-là, quand vous dites ictus, tout à l'heure vous présentiez le mot ictus, ça donne son nom, cet accès désigne un état neurologique spécial, c'est une amnésie brutale, violente et très très affective. Donc au moment où cet enfant me présente mes livres.
Les livres que vous avez écrits auparavant.
Je ne les connais pas. Ce ne sont plus mes livres. Et c'est terrible parce que je vois que cet enfant attend quelque chose de moi. Il est fier. Il est même fier de sa découverte. C'est un enfant qui est proche. C'est un enfant intime. Comment lui cacher au moment où je ressens ce trouble qui est assez grave. Je ne sais pas comment lui dissimuler ce trouble. Donc il faut que je donne le champ, je tourne autour du pot, je lui dis mais je sais pas où j'en suis du tout.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est-à-dire
vous savez, vous les ne reconnaissiez plus ni les titres ni les contenus,
ni à la limite ni même mon nom. C'est alors j'ai pas souvenir du nom, mais c'était les objets qui étaient là n'avaient aucun sens pour moi. Je ne les connaissais pas, ils n'étaient pas de moi. C'est-à-dire qu'une partie de moi n'était plus moi. Il y a une véritable altération. Ça peut sembler burlesque comme ça. C'est d'ailleurs indicible.
Non, essayez d'imaginer. Est-ce que c'est la même sensation, par exemple, lorsqu'on retrouve des vieilles photos où on ne se reconnaît plus, ou lorsqu'on retrouve des photos d'amis et que la moitié d'entre eux sont déjà partis? Est-ce que ça ressemble à ce sentiment ou c'est autre chose?
Non, c'est même pas un déjà-vu. Mais ça ressemble. Il faudrait partir de là. Oui, il faudrait partir de là, de quelque chose comme ça. Mais sauf que là, c'est une sensation totalement inédite. C'est une sensation de désorientation complète, mais qui concerne la conscience de soi, la conscience réflexive. Descartes n'a pas pensé à en parler dans son cogito, mais c'est je pense donc je suis, mais pas forcément, parce que là, au moment où se produit la scène, je pense bien, je suis bien dans une certaine mesure, mais je ne suis pas tout à fait moi, puisque la part de moi qui est concernée par les livres ne répond plus présent. Donc, je pourrais parler de la chose autrement en évoquant le cas de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais je vais quand même le désigner. Je veux dire, c'est le père d'un chanteur, le père d'un chanteur ami, personne fort respectable, de mon âge à peu près, qui se retrouve dans le 16e. Totalement égaré. Il ne sait plus comment il est venu là, pourquoi il est là, comment. Donc il est considéré comme vraiment. Il finit par, être pris en main par des policiers ou des passants qui le dirigent vers des policiers.
Mais là, on peut dire qu'il perd la mémoire. On peut même parler d'Alzheimer pour aller dans le.
Oh voilà, on peut. On pense.
Mais ce n'est pas le cas.
Si, c'était son cas a été diagnostiqué ictus. Son cas était, c'est au même moment où...
Ictus, donc.
Ictus amnésique. C'est un choc violent de la conscience, en général, dans un contexte de forte surcharge émotionnelle. Donc, dans son cas, dans le cas de cet ami, cette relation, il y avait quelque chose. Il travaillait depuis... il était hanté depuis des semaines, des mois, par le cas un cas de pogrom en Alsace. Un brave type qui a été pris, enveloppé dans un complot affreux, un cas d'antisémitisme, de panique antisémite, comme il y en a eu tant. Ça doit se passer au 18e, je crois. Et il avait découvert ce cas-là et il travaillait là-dessus. Il devait produire, même il devait écrire quelque chose dans une revue là-dessus. Et cette l'intensité de ce qui est ressenti par rapport à cette horreur, au fait que le type avait, qui était un paisible négociant du coin, installé là depuis des siècles, qui a été massacré, convaincu de des pires horreurs. Le fait qu'il travaillait là-dessus et qu'il était si intensément pris par son sujet a dû le projeter dans une dimension à un moment donné, faire que son quelque chose a claqué dans son, sa, son appréhension du réel. Donc, au bout d'une semaine, lui, je crois que ça a été, ça a un peu plus duré. Il a été, il est entré en.
Et en ce qui vous concerne, vous, Bayon, c'était quoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Parce que quand vous êtes.
Je peux vous le dire, ça c'est très, maintenant avec le recul, parce que je me suis efforcé 2 ans après, mais non sans trouble de nouveau, à considérer le temps qui s'était écoulé depuis cet épisode. Enfin, depuis que j'ai ressaisi tout ça, sur le mode quasiment de ce qu'on appelle en philosophie l'approximation de données, je crois, on dit ça, en l'approche de données, on essaye de cerner le trou. Il y a un trou, un mot, un terme. Donc on approche du terme, on essaie de comprendre, de cerner ictus. Le terme, c'est ictus. Il est hermétique, il est nébuleux.
Tout ce que vous racontez dans Ictus, Bayon, a été vécu.
Ah, c'est du vécu. Absolument pas. Ça devrait pas être roman. Ça devrait être du. Tout ce que j'ai écrit.
Je vous pose
être...
cette question parce que c'est une belle trouvaille littéraire que d'écrire un roman pour retrouver les romans qui se sont déroulés à nous.
Oui, le livre, mais ça devrait être du romanesque en fait. La clause de style de mes livres, ça devrait être le romanesque. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait la question. Il me semble qu'on s'est égaré par rapport à votre question. Il y a eu un petit dérapage, mais
que vous avez eu un choc émotionnel.
Alors voilà. Voilà, le choc, oui, il est très simple. Le choc, c'est un livre sur un lieu, c'est un livre sur un enfant en rapport avec, ça aurait pu s'appeler les vieux livres et l'enfant, quelque chose comme ça. Et donc, cet enfant, ce qui ne peut pas se raconter dans le livre, cet enfant est un orphelin, comme sa sœur, de fraîche date. Il est victime d'une, l'enfant d'une femme qui a péri dans un atroce accident de tournage en Argentine dont.
Et ceux qui ont lu vos romans précédents savent de quoi vous parlez d'ailleurs.
Voilà. Donc, il y a eu 10 morts. Un accident de tournage qui a fait un massacre de 10 morts. C'est l'enfant de cette femme, donc ça fait évidemment une onde de choc terrible. On peut considérer que l'ictus vient du remue-ménage de cette commotion, de ce que ça fait dans la famille. Moi, je suis à l'extérieur de cette famille puisque je ne suis qu'une pièce rapportée, mais c'est une réaction, c'est ce qu'on pourrait appeler, on dit dommages collatéraux, c'est un dommage collatéral de cette scène de crime épouvantable télévisée. Ça produit cet effet curieux qui est qu'au moment où un enfant me parle ou un enfant qui est orphelin qui est d'un mois, sa mère est morte un mois avant, il me parle de mes livres et je sais pas, quelque chose se brise. Quelque chose se brise en moi au moment où je confronte cette candeur. Je me dis, je sais pas du tout ce qui se produit, mais il y a un court-circuit.
À quel moment?
Et le court-circuit après cette amnésie, après ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle dure. C'est que il y a la scène, et puis bon, la vie continue, mais ça n'est que plus d'un an, 2 ans après que je me dis, que je reviens à cette scène et que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est la question que je voulais vous poser, Bayon. À quel moment le livre s'impose comme une sorte de thérapie? Mais peut-être que je me trompe.
Non,
on l'utilise en thérapie.
Non, voilà, c'est tout à fait ça. C'est de la panique, en fait. C'est un réflexe panique qu'il faut combler. Il y a un trou. Donc, le premier réflexe, c'est de mettre dans ce trou incompréhensible des choses qui s'approcheraient tant bien que mal de ce qui manque, de l'incompréhensible, de l'indicible, sachant que l'indicible, à mon niveau, enfin à mon stade, peut-être il y a un personnage chez Conrad qui est présenté comme un fantôme blasé. C'est un peu arrogant, mais à mon stade de fantôme blasé de Lord Jim, c'est une sorte de sale type dans Lord Jim, l'indicible devient un sujet terrible à saisir. Il n'y a que ça qui intéresse normalement l'écriture. C'est l'oracle, l'augure, comprendre les signes. Et donc, à un moment donné, effectivement, peut-être un an et demi, deux ans après, en tout cas, je me souviens que c'était à Nice. On était en villégiature à Nice, donc en période de fête, et j'ai commencé à déconstruire, enfin à ruminer cette chose-là, et ça donnait par flocculation, par agglomération, ce livre sur le non-livre, oui.
Voilà, vous avez cité des noms d'écrivains, de philosophes, mais il y a d'autres références dans votre livre Bayon. Il y a toute la culture rock, on en parle dans un instant.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je serai toujours cet étranger, mon garçon, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en veut plus, il n'en veut plus. Je remets vite mon sombrero dès qu'on crie action, elle est bonne, ça va pour le son. Il n'en veut plus, il n'en veut plus. J'ai nettoyé la cheminée de Ramona. Je suis parti avant que la Sénor revenisse. Merci. Y'en a pas bleu. Y'en a pas bleu. Après toi, baby, c'est l'heure de zoner. Demain, j'ai une attaque de train. Bon, c'est préservé si on veut durer. Reste toujours numéro un. Après cinq bébés, qu'est-ce que je vois? Un mot d'adieu sur le buffet. Faire ça à moi d'habitude quand je rentre, tout est prêt. Il n'en paye plus. Il n'en paye plus. Il n'en paye plus. Il n'en paye plus. Je serai toujours cet étranger, regard sombre, un rebelle dans nos villes de contraste. Il n'en paye plus. Il n'en paye plus.
J'avais oublié mes livres, tous les livres présents. Puis je les ai retrouvés. Mieux serait de dire qu'ils m'ont retrouvé, que je m'en suis ressaisi, ressouvenu. C'est entendu, fin de l'épisode, voir. Mais qu'est-ce qu'au vrai que ce souvenir de mes livres, ou plutôt que cet oubli d'entre deux, puis ce souvenir d'eux oubliés, puis cet oubli de leur oubli. Extrait d'Ectus, de Bayon, mon invité. Vous avez écouté Alain Bachon, ça vous rappelle les bons souvenirs?
Ah oui, ça m'a tristé.
Ouais. Il y a beaucoup de fantômes qui hantent votre roman.
Mais il était revenu récemment, j'ai été bouleversé. C'est la première fois que je réécoutais Bachung.
Avec Immortel?
Non, avec une chanson qui s'appelle Les Salines, qui était une chanson à l'histoire très étrange, presque sur le mode Ictus, qui était une chanson que Raphaël m'a bien présentée, qu'il avait oubliée. Qui lui est revenu, qu'il avait donné, une chanson qu'il avait donnée pour Bleu Pétrole. Puis il avait jamais eu de retour de Bachung. Et un soir, il me dit, tiens, mais j'ai ça, écoute. Et ça m'a bouleversé ce texte qui était en transe, qui présentait, où Bachung parlait presque de l'au-delà en disant j'atteindrai peut-être pas le paradis, mais Dieu sait que j'aurais essayé. C'est bouleversante, mais ça m'a brisé le cœur.
Vous n'avez pas écouté Immortel, Bayon?
Eh ben non, je n'ai pas écouté. Ça m'a tellement bouleversé que je n'ai pas écouté le reste de l'album. J'ai le reste de l'album à la maison, Mais le morceau de
Immortel, immortel. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Alors, je vous pose cette question parce que vous vivez avec les fantômes. Hein. Ictus, c'est pas seulement l'histoire d'un écrivain qui ne reconnaît plus ses livres et qui crée un livre pour essayer de les retrouver, de les reconvoquer. Et c'est exactement la même chose que vous devez vivre quand vous écoutez une chanson de Serge Gainsbourg que vous avez interviewé avant sa mort pour que cette interview passe après sa mort, c'est-à-dire vous jouiez déjà avec la disparition, que Alain Bachung, les années Libé, ils sont aussi dans ce livre Ictus.
Oui, mais en lumière qui s'éteint, je dirais.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La lumière qui s'éteint, c'est le titre d'un livre de Rudyard Kipling sur un type qui perd la vue. Et voilà, je trouve que c'est un très beau titre, La lumière qui s'éteint. Et donc, c'est quelque chose, c'est une vague résonance, une vague réminiscence, mais qui s'éloigne. C'est très très loin, c'est une dérive. Bachung, Gainsbourg, tout ça est très très loin. Est-ce que je vis tant que ça avec eux? Je vis pas tant que ça avec eux. Je suis pas nostalgique, on pourrait dire. Je suis hanté, mais pas nostalgique. Peut-être parce que je suis né... très loin, je suis né déraciné, je suis né en brousse, mais sans y vivre tant que ça, en changeant de pays, de maison, de... Et donc,
mais longtemps, votre métier d'écrivain, et on apprend dans Ictus que c'est une passion qui date de votre très jeune âge, hein, longtemps, votre métier d'écrivain se confondait avec celui de rock critique, donc avec la vie de tous ces chanteurs que vous avez accompagnés.
Oui et non. Oui et non, je pense qu'ils se superposaient, mais je pense qu'ils représentaient une sorte de couche aveugle, cachée, et que j'utilisais, la façon de écrire sur le rock, sur le cinéma, sur les navets, sur les livres, un tout petit peu avant que je ne m'arrête en considérant qu'il y avait incompatibilité entre le fait d'écrire et le fait d'écrire sur les livres. Tout ça, c'était du journal, c'était du quotidien en plus. Un peu dans des magazines, mais essentiellement du quotidien. Et donc, c'est pas la même forme d'approche de l'écriture. Et ce qui concernait les livres, c'était en retrait, c'était dans l'ombre monastique, en fait, un peu. Par moments, je me soupçonne avec des livres comme Ictus. Je me demande si ce sont pas des choses qui servent essentiellement à terroriser. Si c'est pas justement l'écriture les articles, même s'ils avaient leur charge, leur poids d'hermétisme ou d'incompréhensible, ils étaient accessibles. Les livres, je pense que c'est une façon de...
Enfin, vos articles accessibles, ceux qui se souviennent de vous doivent bien rire, hein, Bayon.
Bon, c'est pour ça que j'y mettais un peu des conditions, des réserves, mais
c'était un jeu, ça, vous pouvez le dire maintenant. Il y a prescription. C'était un jeu.
Non, non.
Vous vous arrangez pour que personne ne comprenne rien.
Non, disons. Ce qui irait dans le sens de votre question, c'est que l'écriture des articles, qui aurait dû être simple, tendait à la complexité, tendait à rejoindre celle des livres. Donc, il y avait quand même quelque chose qui se redoublait. Mais il n'empêche que les livres, c'est un territoire, c'est une Atlantide. C'est un territoire à part, c'est le monastère, et donc quand je dis que je me soupçonne de quelque chose de l'ordre de la terreur, je me demande si les livres, c'est pas pour s'il y aurait pas quelque chose, une démonstration de ce que ça de terrible, ce que ça de c'est à la fois attirant, on aime lire, et en même temps quelle pénitence, il faut se retirer, il faut ne pas vivre pour écrire, c'est paradoxal, mais il faut avoir vécu des choses comme c'est l'expérience très intense qui est décrite là, mais en même temps, il faut arrêter de vivre, il faut se retirer de la vie, donc ne plus sortir, ne pas manger, ne se couper de tout, de façon très très janséniste, intégriste presque. Il faut c'est comme une période de jeûne où il faut être pur, c'est religieux. Je suis totalement religieux, hein, ne me soupçonnez pas de
mysticisme,
mais de millénarisme, oui, mais
donc mais tout se passe bien dans Ictus puisque tout finit par rentrer dans l'ordre.
On arrange un peu, mais
vos souvenirs restent intact. Votre première rencontre avec Jérôme Lindon est un passage succulent de de votre roman, parce que vous êtes jeune, parce qu'on est dans les années 70, parce que vous êtes très timide, mais vous êtes très audacieux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous cette première rencontre.
C'est une leçon, c'est une bonne leçon de cet homme vénérable qui était effectivement l'esprit de la rue Bernard Palissy, si je me souviens bien, où Dieu sait que j'y suis allé. Et j'ai fini par y être publié, mais dans la revue, qui était quand même une revue extrêmement cotée. C'était la revue Minuit, ou De Minuit, je ne sais plus comment on disait. Deux fois, j'ai eu des textes publiés. Un texte sur Orson Welles, un texte sur qui s'appelait Un Oedipe américain. Enfin, toujours est-il que je me présente, je portais... Oui, dans les années 70, alors que j'étais encore étudiant.
24 ans, vous aviez, à l'époque.
Voilà. Ouais. Donc, je vais être en instance de non-passage de l'agrégation. Enfin, j'ai présenté l'agrégation deux fois, ouais, en même temps que le CAPES, et puis avant de finir par gâcher un peu tout. Mais bon, c'est pas très grave. Et je portais des manuscrits régulièrement. Et donc, un jour... Sur les conseils d'Alain Robbe-Grillet, qui m'avait parlé au téléphone, qui s'intéressait à ce que, qui avait apparemment été piqué parce que un des manuscrits que j'avais apporté, je serais plus capable de dire lequel, sans doute sur suggestion d'Alain Robbe-Grillet, Jérôme Lindon m'accosse, me dit, mais un jour où je venais rechercher des manuscrits, un de mes manuscrits, il me dit, mais c'est, dites-moi ce que c'est, vos, résumez-moi votre démarche.
On devine très bien la scène, ouais. Vous avez 24 ans, Bayon, ouais, et vous lui dites, c'est rien. Et lui, il vous dit, si c'est rien, pourquoi les faire lire? Pourquoi les éditer?
C'était assez beau, mais en même temps, je pourrais répondre la même chose aujourd'hui. Je suis d'ailleurs un peu embarrassé, parce qu'on m'a demandé de répondre à un questionnaire comme ça.
Pourquoi écrivez-vous?
Oui, c'est quoi votre projet? Et... j'ai l'impression d'être un peu, de correspondre à un peu peut-être les griots, les sorciers, les gens qui sont un peu possédés, qui ont des passages comme ça de vision, qui sont un peu pris dans. Je suis visité par des orishas par moment, et puis ça sort de possédé un peu, parce qu'il faut l'être pour écrire des livres. C'est quand même très très à la fois rebutant, exigeant, astreignant.
Bien sûr, vous barrez toutes ces mentions quand vous passez au statut de lecteur. Voilà, un réveil culturel qui sort de l'ordinaire, avec Bayon qui publie chez Fayard Ictus. Merci d'être passé.
Merci à vous, Toufik.
Bon, sinon, l'équipe est toujours la même. Vincent Abouchard à la réalisation, Corinne Amar à la coordination, Claude Nior pour la prise de son ce matin. Vous pouvez nous écouter en différé. L'abonnement au podcast de l'émission ainsi que l'écoute en ligne sont à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission Le Réveil Culturel. Demain, on parlera de l'exposition Fujita à la Maison de la Culture du Japon. Bonne journée.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente JR par la compagnie flamande F.C. Bergman à la Villette. Située dans les années 70 et adaptée d'un roman de William Gaddis, cette pièce est un portrait satirique et désopilant du capitalisme. Comment J.R. Vincent, 11 ans, aussi impitoyable soit-il, peut-il prendre d'assaut Wall Street ? Théâtre et cinéma s'entremêlent dans un décor à 4 étages, les points de vue se multiplient et les destins individuels s'enchevêtrent en un formidable chaos collectif. JR, du 12 au 16 avril, à la Grande Halle de la Villette, à Paris, un partenariat France Culture. La Grande Table sur France Culture à l'heure européenne. Olivia Gesbert.
Culture commune, récit européen, grand marché ou citoyenneté, et si l'Europe disparaissait, et si on pouvait la réinventer? Régis Debray, Roger Scruton, Elisabeth Roudinesco, Anne-Thérèse de Kersmaker, Javier Cercas ou Christophe Warlikowski, ils sont italiens, britanniques, belges, polonais ou encore français, 10 grandes voix de la culture et des idées, souvent critiques, partageront avec vous toute cette semaine leurs sentiments européens.
La Grande Table, semaine spéciale Europe, dans le cadre de l'opération Radio France hashtag Votre Europe, de lundi à vendredi à midi, à retrouver sur franceculture.fr, en partenariat avec La Croix.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les législatives s'annoncent serrées. Demain, les Israéliens seront appelés aux urnes pour prolonger ou non le pouvoir de Benjamin Netanyahou. Malgré les affaires judiciaires, pourquoi convainc-il encore? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Nous irons aussi au Venezuela où la crise politique pourrait durer à cause de la crise économique. Entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, les habitants semblent fatigués, presque lassés face aux pénuries massives. Et puis les Algériens et les Français d'origine algérienne étaient hier dans les rues de Paris. Ils réclament toujours le départ de l'ensemble de la classe politique au pouvoir en Algérie. Et l'on commence donc à la veille des élections législatives en Israël par ce coup d'œil sur les sondages. Ils penchent plutôt en faveur du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Malgré l'usure du pouvoir, il y est depuis 10 ans maintenant, malgré les affaires, Benjamin Netanyahou reste le maître incontesté du Likoud, le plus à même de bâtir une majorité pour le pays. Face au général centriste Benny Gantz, Benjamin Netanyahou mise sur la sécurité et sur son costume d'homme d'État proche de l'américain Donald Trump. Ses troupes semblent vouloir le suivre. Preuve en est avec ce reportage d'Étienne Monin au sud de Tel Aviv.
Le marché du quartier Vavajdod est un secteur populaire. On est contre la Méditerranée, dans une ville qui vote majoritairement pour le Likoud et qui soutient encore Benjamin Netanyahou, couramment appelé Bibi, après 10 ans consécutifs de pouvoir.
Un leader comme ça, il y en a une fois par génération. On peut remplacer tout le monde, mais quelqu'un comme Bibi, c'est irremplaçable.
Dans la rue, l'usure du pouvoir ne se fait pas sentir, le poids des affaires non plus. Benjamin Netanyahou risque 3 mises en examen en cas de réélection, mais visiblement ça ne compte pas.
Il n'y a que Bibi. Les affaires, ça ne me dérange pas. Tu penses que les autres ne font pas la même chose? Qu'ils prennent. Ils donnent beaucoup pour le pays. Ça ne me dérange pas.
Le Premier ministre est au centre de la campagne. Il se présente comme le garant de l'identité juive et de la sécurité. Ce sont les thèmes sur lesquels le Likoud attaque l'opposition, dit Moshe Zaken, qui sert de relais local.
Le message principal, c'est que notre pays n'est pas à vendre. Il y a ici un groupe de gens de gauche qui sont prêts à s'allier avec les représentants arabes, qui sont les soutiens du terrorisme. On le voit tous les jours.
La campagne se fait principalement sur Internet. Elle est dirigée par l'entourage direct du Premier ministre.
Étienne Monin, Ashdod, en Israël, pour France Culture. La crainte d'un nouvel embrasement en Libye, elle se confirme d'heure en heure. Plus d'une vingtaine de personnes sont mortes depuis jeudi. Depuis, en fait, l'avancée des forces du général Haftar sur Tripoli, l'homme fort de l'Est du pays tente de s'emparer de la capitale face aux troupes du gouvernement d'Union nationale. Alors que le nombre de migrants vénézuéliens ne cesse d'augmenter dans les pays voisins, une réunion se prépare ce lundi à Quito. L'idée est toujours de trouver une solution humanitaire et puis, si possible, politique à cette crise. Le week-end a encore été marqué par des manifestations de part et d'autre. Près de 3 mois après le début de la contestation, le bras de fer politique entre Nicolas Maduro et Juan Guaido se transforme en guerre d'usure, Benjamin Delisle.
Juan Guaido le sait, le temps joue contre lui. Plus la crise se prolonge, plus sa capacité à mobiliser les foules contre Nicolas Maduro risque de s'effriter. Cela s'est vu ces dernières semaines, en particulier à cause des coupures de courant. Beaucoup de Vénézuéliens, pourtant majoritairement favorables à l'opposant, semblent fatigués par la crise politique. Ils sont trop occupés à essayer de survivre dans un pays où tout manque plutôt que d'aller manifester. C'est pour cela qu'il a annoncé ce week-end le début de la phase finale pour faire plier le pouvoir. Il veut multiplier les manifestations manifestations, garder les gens dans la rue, en vue de marcher à terme sur Miraflores, le palais présidentiel, et ravir son poste à Nicolas Maduro. De leur côté, les autorités font aussi monter la pression en multipliant les menaces d'arrestation contre Juan Guaido. Cette semaine, l'Assemblée nationale constituante a fait lever son immunité parlementaire, mais elle n'ose pas encore l'arrêter par peur de la réaction des alliés internationaux de l'opposant, en particulier les États-Unis. Il semblerait que la stratégie chaviste vise aussi à faire taire la contestation. De plus en plus de manifestations sont réprimées, en particulier par les colectivos, des paramilitaires proches du pouvoir qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles. Dans ce climat tendu, plus aucun dialogue ne semble possible et le risque d'une escalade des violences plane sur le pays.
Là aussi, on parle de bras de fer et il dure depuis des mois. Au Royaume-Uni, la semaine s'annonce encore décisive. La première ministre britannique, Theresa May, espère convaincre Bruxelles d'un nouveau report du Brexit, non pas jusqu'à ce 12 avril, mais jusqu'au 30 juin. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne doit se tenir après-demain, mercredi. Et pendant ce temps, les citoyens britanniques s'inquiètent toujours de leur avenir. Certains envisagent même de s'installer pour de bon en France. Dans le Lot, par exemple, vivent 3 à 4 000 ressortissants britanniques. 23 d'entre eux sont des conseillers municipaux et ils s'inquiètent évidemment de l'après-Brexit. Le préfet du Lot, Jérôme Filippini, va donc ouvrir une permanence spéciale au bureau des étrangers pour répondre à leurs demandes chaque mercredi après-midi.
Dans les deux dernières années, depuis le vote britannique sur le Brexit, on a vu augmenter très très fortement le nombre de citoyens qui demandaient une naturalisation. Pour vous donner un exemple, en 2016, ils étaient 6% de ceux qui ont reçu la nationalité française. En 2017, ils étaient 17%. En 2018, ils étaient 33%, c'est-à-dire qu'un sur trois devenus français dans le Lot était un Britannique. Mais ça représente une quarantaine de personnes en 2018. Donc vous voyez, 40 sur 3000, ça ne veut pas du tout dire que tous vont demander la nationalité française, ou en tout cas avaient l'intention de le demander. Maintenant, selon la façon dont le Brexit va se passer, on sait d'ores et déjà qu'il y en a beaucoup qui demandent à devenir français. Ce qui est sûr, c'est que la courbe est très très croissante.
Le préfet du Lot, interrogé par Magali Lacombe de France Bleu Occitanie pour France Culture. Qu'ils dégagent tous. C'est autour de ce mot d'ordre que se sont rassemblés hier à Paris plusieurs milliers d'Algériens, des Français d'origine algérienne également. Ils demandaient le départ des cadres du système Bouteflika en Algérie. La démission du chef de l'État ne leur suffit pas, voilà ce qu'a constaté pour nous Steven Goyer.
Au milieu des drapeaux algériens et berbères, les quelques pancartes brandies portent toutes le même message. Après Abdelaziz Bouteflika, c'est au tour des responsables actuels, le chef d'état-major ou le président du Conseil de la Nation notamment, de prendre la porte. Pour Agnès, c'est même toute la classe politique actuelle, produit du système Bouteflika, qui doit s'en aller et ne pas participer à la reconstruction du régime.
Le Parlement actuel, députés et sénateurs, ont été nommés ou par le président ou par les militaires, c'est pas des élus. Donc dissoudre le Parlement, mettre en place une structure de débat national, une plateforme, et repartir sur les constituantes. Autrement, on retombe dans... on l'a encore pour 20 ans.
C'est donc désormais aux manifestants de s'organiser. Nassera, par exemple, veut croire à la création d'un système par les responsables des manifestations des dernières semaines.
Moi, je fais confiance à ceux qui ont créé ce mouvement, ceux qui ont dépassé la peur, ceux qui n'ont connu que Boutef. Ils sont capables. Ils ont fait déjà la plateforme. Ils n'ont demandé à personne son avis. Donc moi, je pense qu'ils sont capables d'élire leur comité.
Objectif réclamé par les mobilisés, parvenir à la création d'une nouvelle constitution et à l'organisation d'une élection présidentielle. Pour l'instant, c'est au président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, de se charger de la mise en place du scrutin. Mais pour Kerdine, c'est clair, hors de question d'y participer.
Le président Sina doit démissionner pour que le peuple aura le temps d'organiser. Soit aller vers une constituante, soit aller vers les élections présidentielles avec une instance indépendante qui doit organiser. Ce n'est pas l'administration, c'est un rapport de force.
Si le nouveau pouvoir doit émerger de la rue et pas de l'administration actuelle, beaucoup réclament également à l'armée de se tenir éloignée des discussions à venir.
Lors des conclusions en France, le Premier ministre Édouard Philippe fait le bilan du grand débat national ce matin à partir de 9h. Près de 2 millions de contributions seront synthétisées au Grand Palais à Paris. Les décisions, elles, devraient intervenir au plus tôt à la mi-avril. En bref, encore, la taxe sur les géants du numérique arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi en première lecture. Une trentaine d'entreprises sont visées, parmi lesquelles les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Cette nouvelle taxe pourrait rapporter 400 millions d'euros. Les GAFAM GAFA et le financement des médias. Voici le reportage de ce lundi matin. Vous pourrez l'écouter à 7h24 tout à l'heure. Comment faire en sorte que les journalistes protègent au mieux les lanceurs d'alerte, tous ceux qui révèlent ou qui signalent un crime, un délit, enclenchant un processus de régulation ou de mobilisation collective? Ce week-end, en Italie, à Pérouse, se tenait le Festival international du journalisme et il était question des lanceurs d'alerte. Compte rendu sur place de Catherine Pétillon.
De grandes enquêtes ont pu avoir lieu grâce au numérique, et notamment parce qu'il a permis à des lanceurs d'alerte de mettre à la disposition du public des données essentielles. C'est ce qu'ont montré entre autres l'affaire Snowden ou les Panama Papers, pour ne citer que deux exemples. Mais les mêmes outils ont aussi rendu possible la surveillance ou l'interception de communications par les autorités, avec pour conséquence de nombreuses arrestations de lanceurs d'alerte. C'est en partant de ce constat que l'ONG Blueprint for Free Speech a conçu, avec l'aide de journalistes d'investigation du monde entier, 12 principes pour travailler avec les lanceurs d'alerte. Autrement dit, pour faire en sorte que les journalistes protègent au mieux ceux qui leur livrent des informations sensibles. Aujourd'hui, les échanges d'informations ont de grandes chances d'avoir lieu via des outils numériques. Ces principes insistent donc sur la nécessité d'utiliser des messageries ou des services d'échange de données sécurisés. Autre axe retenu, l'importance de prendre en considération toutes les implications que peut avoir dans la vie de quelqu'un le fait de lancer l'alerte. Nous avons pour responsabilité de conseiller les lanceurs d'alerte sur les questions légales, a expliqué l'un des journalistes à l'origine des Panama Papers. Nous devons aussi parfois laisser tomber une affaire si nécessaire.
Le temps de ce lundi sera marqué par un ciel gris nuageux avec de la pluie selon Météo France. Il fait ce matin 9 degrés à Besançon, 11 à Lille, Nantes et Lyon, 12 degrés à Paris, 14 à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées ce matin, vous revenez sur le premier débat de la campagne des européennes qui a laissé une impression mitigée.
Oui, un tour de chauffe plutôt confus, estiment Lucie Delaporte, Manuel Jardineau et Ludovic Lamand dans Mediapart. Alors que les temps de parole étaient très strictement encadrés, les candidats ont peiné à développer, au-delà de quelques slogans, leurs idées. Le sujet de l'immigration au centre du débat a concentré un tiers du temps de l'émission, offrant une tribune aux plus réactionnaires des têtes de liste. En particulier, Nicolas Dupont-Aignan, qui a agité le chiffon rouge de la grande invasion, évoquant 18 millions de migrants entrés dans l'UE depuis 5 ans, en feignant d'oublier que près de la moitié sont des résidents européens qui ont circulé à l'intérieur de l'espace européen. À gauche, un sujet s'est imposé, la transparence de la bulle bruxelloise. Et lorsque François-Xavier Bellamy, les Républicains, a renchéri sur la question, il s'est attiré une flèche de Jadot qui lui a rappelé que les eurodéputés, les Républicains, avaient demandé à voter à bulletin secret lors d'un vote clé sur la transparence à Strasbourg. L'écologiste faisait allusion à une évolution du règlement intérieur du Parlement adopté le 31 janvier 2019 qui force les eurodéputés, lorsqu'ils sont chargés de directives ou de rapports, à rendre publique la liste des lobbyistes qu'ils rencontrent. Les députés de la droite européenne avaient alors demandé un vote à bulletin secret, une pratique extrêmement rare en séance plénière. Dans les pages idées de Libération, deux juristes et deux politologues soulignent, à quelques semaines des élections, un geste fort du Parlement européen allant dans le sens de la transparence. Les députés ont exigé le 26 mars le départ de Martin Selmer, ancien bras droit de Juncker, dont la nomination comme secrétaire général de la Commission faisait polémique. Marie-Laure Basilien-Guinche et Sébastien Platon, ainsi que Guillaume Sacriste et Antoine Vaucher, rappellent les conditions délibérément opaques de cette nomination au poste de secrétaire général, le plus puissant fonctionnaire de la Commission européenne. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel immédiat ou d'abus de biens sociaux, mais toute une série de faits limites. Les auteurs dénoncent la stratégie d'auto-limitation interne du pouvoir de la Commission, qui passe par ces fameux codes de conduite, comme celui qui fut consolidé à la suite de l'affaire Barroso, passant de 18 mois à 3 ans la période de refroidissement pour le président de la Commission, après que ce dernier a rejoint trop précipitamment Goldman Sachs à l'issue de son mandat. Des procédés non coercitifs aux effets limités. C'est pourquoi il salue la décision du Parlement, dont il rappelle qu'il dispose de l'arme nucléaire, de la motion de censure qui permettrait d'affirmer un contrôle externe sur la gestion de la Commission, et il suggère, à la veille d'élections européennes traditionnellement désertées par les électeurs, que le Parlement européen tente un coup symbolique, bien dans sa tradition, en censurant la commission Juncker et en établissant la primauté d'un contrôle politique et démocratique sur ses décisions internes. Et en déclenchant ainsi l'électrochoc dont ont besoin ces élections pour devenir un grand moment de démocratie européenne. L'économiste Laurence Sialom s'en prend quant à elle au pouvoir exorbitant de la BCE. Elle estime dans Le Monde que ce genre d'institution aux super pouvoirs monétaires et financiers échappe au contrôle citoyen, en particulier en Europe, du fait de la non-coïncidence entre l'espace de circulation de l'euro et les espaces de souveraineté des États membres de l'Union monétaire. Or, cette indépendance vis-à-vis des gouvernements, ce vide démocratique, s'accompagne d'une écoute particulière et attentive aux intérêts du monde de la finance, en témoigne la composition des comités d'experts de la BCE. Nous devons réinventer une souveraineté européenne, déclarait Emmanuel Macron en avril 2018 devant le Parlement européen. Jean-Michel Quatrepoint développe dans l'hebdomadaire Marianne les grands axes pour une Europe réellement protectrice. Avec la chute du mur de Berlin et le triomphe du néolibéralisme, écrit-il, le projet européen change définitivement de nature. L'indépendance devient un concept ringard. Seul compte le marché, la libre circulation des biens et des personnes, la fin des frontières. Pourquoi dès lors se préoccuper de souveraineté? D'où l'élargissement à marche forcée plutôt que l'approfondissement, l'abandon de la préférence communautaire, l'incapacité à construire une Europe autonome de la défense autour d'industriels européens et l'absence de toute politique industrielle commune, notamment sur les technologies du futur, en particulier le numérique. Deux pistes, taxer réellement le monopole des GAFAM en suscitant l'émergence de compétiteurs européens avec au besoin des aides publiques, et puis au nom de la nécessaire, concurrence, et puis l'extraterritorialité du droit américain qui s'impose par exemple dans l'embargo sur l'Iran, lui opposer donc une extraterritorialité du droit européen, notamment à l'égard de certaines multinationales. 6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, les combats en Libye.
Eh oui, les combats qui ont déjà fait une trentaine de tués dans l'offensive et contre-offensive autour de Tripoli. Depuis jeudi, l'ANL du général Haftar affronte les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale et menace d'entrer dans Tripoli. C'est la confrontation la plus directe entre les deux entités qui se partagent le pays depuis 3 ans et des événements qui viennent percuter le calendrier. Et le processus politique en cours, avec quel effet? On voit ça avec vous, Jalel Archaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut Klingendel aux Pays-Bas. Alors, les États-Unis, comme les autres, demandent l'arrêt immédiat des combats il y a quelques heures. En fait, depuis 2016, les deux entités, ANL et GNA, se disputent la légitimité et se partagent de fait le contrôle du territoire. Il y a un fragile processus de paix de négociations et processus politiques depuis 2017. Cette fois-ci, avant qu'on parle des intentions du général Haftar, avec cette offensive, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt l'équilibre territorial?
Oui, il rompt beaucoup de choses. Il rompt d'abord un processus de paix qui, paradoxalement, se portait de mieux en mieux depuis quelques mois. Il était de plus en plus prometteur. Et d'un seul coup, depuis jeudi soir, on passe soudain à une dynamique de guerre civile qui détruit justement des dialogues qui commençaient à s'instaurer et des possibilités de conciliation qui se font de moins en moins concrètes. De chaque heure qui passe, chaque incident, à chaque affrontement, il y a tout autant de dialogues qui deviennent irréversibles, enfin beaucoup moins possibles du coup.
Et alors, est-ce que c'est pour mener une guerre et obtenir une victoire sur les milices alliées au gouvernement d'union nationale, ou alors est-ce que c'est pour revenir dans l'agenda politique, puisque il a lancé son offensive, le maréchal Haftar, au moment de la visite du secrétaire général de l'ONU, Guterres, précisément à ce moment-là?
Bon, tout d'abord, il faut bien prendre conscience que le montant de violence auquel on assiste n'est pas forcément ce qui est prévu par le maréchal Haftar. Lui, effectivement, ce dont on est certain, c'est qu'il avait commencé à vraiment s'intéresser au processus des négociations et aussi avait pris l'habitude d'utiliser la démonstration militaire comme un outil de négociation. mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe depuis jeudi est cohérent avec un plan précis, délibéré de sa part. C'est un territoire très vaste. L'aventurisme militaire dont il fait preuve est extrêmement audacieux. Et il y a aussi toute une série d'incidents qui n'étaient pas prévus, qui précipitent l'ensemble de la dynamique dans une guerre civile qui n'est pas forcément voulue, calculée, maîtrisée.
Et quand bien même s'il n'était pas calculé, le maréchal Haftar était déjà en campagne, on pourrait dire, depuis le début de l'année, puisque il avait investi cette région du sud-ouest qu'on appelle le Fezzan, encore une fois, dit-il, pour combattre les groupes terroristes. Il avait même pris un des principaux champs pétroliers. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'équilibre justement territorial, là, pour le coup, n'avait pas déjà été rompu?
En fait, la réponse est l'inverse. C'est-à-dire que sa conquête du sud-ouest de Libyen, c'est un territoire grand comme trois fois la Syrie, je rappelle, c'était un petit peu bien passé. C'est-à-dire qu'il avait fait preuve de vraiment d'élégance dans son approche. Il y avait un mélange assez intelligent entre des accords tactiques, diplomatiques assez pacifiques, des utilisations ponctuelles de forces brutes, devant une démarche assez barbare dans certains cas. Mais dans l'ensemble, c'est une opération qui s'est plutôt bien passée pour lui. Et la réaction de la communauté internationale était extrêmement silencieuse, parce que justement, il y avait une espèce de séduction qui s'était instaurée. Et c'est ça qui explique la confiance en lui-même qui se traduit par une violence accrue dans une zone qui est beaucoup plus compliquée que le sud libyen.
Et alors,
donc c'est un petit peu le paradoxe de cette année.
Oui, justement, pour essayer de comprendre ses intentions aujourd'hui, qu'est-ce qu'il essaye de faire, puisque c'est ce général qui se retrouve, un maréchal, homme fort, on pourrait dire, de la situation sur le plan militaire, et qui en même temps a participé depuis 2017 à plusieurs rencontres avec Fayez al-Sarraj, le Premier ministre d'Union nationale, qui participe donc à ce processus politique, on pourrait dire, du bout des lèvres à chaque réunion. Cette fois-ci, il veut vraiment prendre Tripoli ou peser, encore une fois, d'une certaine manière, sur les négociations et une conférence nationale qui doit intervenir la semaine prochaine, le week-end prochain.
C'est un mélange. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui comportait un élément violent, mais qui était de plus en plus fructueux, d'une certaine façon, que la communauté internationale commençait à apprécier. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on a un homme fort, c'est un militaire, mais il est en train d'avancer au plan politique, et ça nous intéresse, parce que ça risque de donner naissance à un État unifié. Ça va sans doute ressembler à une autocratie militaire, mais bon, tant pis, au moins ça va contenir la Libye, j'allais dire. Et il y a autre chose, et c'est ça qui est en train de ressortir, revenir à la surface, il y a le comportement d'un homme âgé de 76 ans, qui n'est pas un véritable politicien. C'est un homme violent qui a passé l'ensemble de sa carrière dans des batailles assez sanguinaires et qui finalement, dans son instinct premier, pense pouvoir tout résoudre avec simplement une utilisation aveugle de la violence. Donc c'est vraiment le mélange de deux chemins, si vous voulez, et ce qui est en train de ressortir et qui va entraîner des conséquences irréversibles, qui sera très difficile de corriger par la suite, c'est un homme vieux qui n'a pas grand-chose à perdre et qui s'acharne.
Et alors justement, là, on voit que depuis jeudi soir, ou plutôt vendredi au petit matin, l'offensive, on pourrait dire, piétine, puisqu'elle n'a pas réussi à faire, à être une offensive éclair, à entrer dans Tripoli. Est-ce que, en quelque sorte, là-dessus, il ne s'est pas mis en grand danger, le général Haftar, s'il n'obtient pas une victoire éclair, justement?
Il peut tout perdre. C'est vrai qu'il est possible qu'il finisse par absolument perdre des années de travail. Mais il peut aussi gagner. Il faut accepter le degré d'incertitude assez élevé dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Parce que sans être expert militaire, il aurait les moyens de prendre Tripoli, disons?
Il n'a pas les moyens de prendre Tripoli si le bourbier qui est en train de s'instaurer s'instaure et persiste. C'est une petite armée qui n'a pas l'habitude d'avoir des responsabilités à l'échelle nationale, a été concentré pendant 3 ans sur, grosso modo, la ville de Benghazi. C'est maximum 25 000 soldats qui essayent de rallier comme ça des acteurs locaux en Tripolitaine. Mais il est encore possible qu'il y ait une percée, qu'il y ait une division parmi ses adversaires qui, pour l'instant, font preuve de cohésion. D'ailleurs, c'est ça qu'il n'avait pas prévu. Mais tout ça peut se dégénérer de sorte à lui permettre une porte d'entrée qui fasse qu'il arrive à la ligne d'arrivée. C'est encore possible. Mais aussi, de la même manière, il est possible qu'il se retrouve assiégé, c'est-à-dire que plusieurs de ses forces clés se retrouvent assiégées en Tripolitaine, une région qui n'est pas la sienne, et que très très vite, ils perdent tout. Il y a aussi la possibilité d'un bourbier qui dure avec aucune issue claire, et on pourrait encore avoir cette conversation dans 2 ans ou 3 ans.
Oui, et du côté de la communauté internationale, en tout cas l'ONU, on a vu que la Russie a bloqué là tout récemment une résolution contre l'ANL et le général Haftar précisément. Est-ce qu'il y a certains des parrains de cette ANL assez puissants comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, ou l'Égypte, qui peuvent l'amener à temporiser son offensive, même si c'est peut-être pas leur intérêt non plus?
Je suis pas sûr d'abord que ce soit possible, parce que d'abord, il faut mentionner la France. La France est extrêmement proche des Émirats Unis et assez approbatrice de la démarche de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a ce trio qui fonctionne d'une manière assez, assez cohérente depuis plusieurs années en soutien au maréchal Haftar, y compris le soutien militaire. Mais si on accumule des ressources comme ça, et on envoie des armes, et on envoie de l'argent, et on envoie des feux verts diplomatiques, une couverture idéologique pendant des années, c'est pas parce que les choses dérapent qu'il est possible forcément, d'un point de vue ne serait-ce que logistique, de pouvoir rattraper la sauce et de tout arrêter. Ce sont pas des mécaniques aussi simples. Il y a toujours des temps de décalage qui font que, finalement, il a énormément de marge de manœuvre. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas une marionnette. Ce sont ses décisions à lui qu'il prend en fonction des ressources et des opportunités qu'il aperçoit et du raisonnement qu'il pense être le bon. Et aussi, je ne suis pas sûr que ces États soit véritablement convaincu qu'il va perdre, que c'est le moment de reculer. Je ne suis même pas sûr que la France soit tout à fait sincère dans ses déclarations diplomatiques. Je pense qu'il y a un fort espoir à Paris qu'il réussisse.
C'est cette fameuse question du pari sur le maréchal Haftar qu'évoquait Le Monde. Bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, ainsi que du processus politique, c'est sûr, à suivre le week-end prochain, voir s'il y a cette fameuse conférence nationale. Et merci pour ce matin, Jalal Harchaoui. Je rappelle, chercheur à l'Institut Klingendel aux Pays-Bas.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent En lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Demain, à 18h30, retrouvez Mario de Muraille, grande figure de la littérature pour la jeunesse, auteur de 90 livres dont Oh Boy ou encore Miss Charity. Une rencontre animée par Louise Touret. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
France Culture et l'Institut du Monde Arabe présentent les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. 4 jours pour comprendre le monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent, autour de la thématique du corps, avec plus de 50 rencontres. À cette occasion, la Fabrique de l'Histoire propose une semaine spéciale autour de l'histoire du corps et Jukebox, une histoire en musique de l'Algérie en 1962. Les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, du 11 au 14 avril, à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Une coproduction France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner.
Mais
bonjour.
Oui, Xavier Martinet, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Et vous arrivez avec des rimes aujourd'hui, puisque si elle va mal, la France, c'est à cause de la redevance.
Bah oui, j'ai un peu honte, et puis j'imagine que vous aussi, Xavier, cette redevance qui nous paye est effectivement la cause des malheurs français. Si l'on veut sortir de la crise, eh bien, il faut supprimer la redevance. Je l'ai lu hier dans le journal du dimanche, dans un sondage, donc JDD, fiscalité, ce que veulent les Français, que veulent-ils? Alors 90% de mes compatriotes réclament la fin de la TVA sur 50 produits de première nécessité et 85% aspire à la fin de la redevance audiovisuelle. C'est un peu du pain et du cirque, enfin du pain et du cirque gratuit. Alors bien sûr, pas exactement gratuit, hein, puisque d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir la payer. C'est une idée qui vient de Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, une idée pas du tout démagogique, avec bien entendu la promesse de ne pas toucher au budget
budget de l'audiovisuel public, sauf qu'il n'y a pas de monnaie magique et que, bien entendu, si l'on maintient cet audiovisuel public, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un le paie. Alors, dans un premier temps, donc, on continuerait à faire payer les Français, et puis après, bah, peut-être que, en tout cas, c'est ce que l'on peut redouter, le budget de l'audiovisuel public serait revu à la baisse. La suppression de la redevance avait été enterré, et Gérald Darmanin l'avait évoqué, et puis finalement il y avait eu plutôt des réactions hostiles, et voilà que le JDD la ressort opportunément, et aux surprises, les Français interrogés ne sont pas contre cette idée, ne sont pas contre l'idée de ne rien payer, surtout si cela ne change rien à rien. Et c'est ça qui est beau dans cette proposition, c'est qu'on aimerait connaître les 15% de Français, les 15% de Maso qui veulent continuer à payer la redevance, 15% qui sont contre cette proposition opportunément brandie par le groupe Lagardère. Je ne suis pas du tout en train de dire que Lagardère fait de la politique, que Lagardère teste la possibilité de supprimer la redevance parce que Lagardère posséderait, par exemple, je ne sais pas moi, une station de radio. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça serait dommage qu'une aussi bonne idée se perde. Sur le plan fiscal, c'est évident. Sur le plan symbolique, ça l'est tout autant. Arrêter de payer pour la redevance, c'est aussi une façon de faire croire que l'audiovisuel public est gratuit, car vous le savez, Xavier, ce qui est gratuit, c'est bien connu, ne vaut rien.